Les écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas.
Words, English words, full of echoes, memories.
Pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre, c'est-à-dire une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi.
Words, they've been on people's lips, in their houses, in the streets, in the fields, for so many centuries.
La vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas ? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer.
Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. Le 3 janvier 1892, en Afrique du Sud, naît le premier enfant d'Arthur et Mabel Tolkien. On lui donne le prénom de John, ainsi que deux autres prénoms, Ronald et Ruel. Le bébé est adorable. Il a des mains et des oreilles très belles, des doigts très longs, des cheveux très clairs, des yeux Tolkien et une bouche très nettement Suffield. Quelques années après la naissance de ses deux fils, Mabel Tolkien quitte l'Afrique du Sud. Elle embarque avec ses enfants à bord d'un bateau à vapeur qui la ramène en Angleterre en 3 semaines. Responsable de l'agence de la Banque d'Afrique, Arthur Tolkien, lui, n'a d'autre choix que de rester à son poste. Il rejoindra sa famille plus tard, pour Noël. Enfin, c'est ce qui est prévu, car malheureusement, début novembre, il contracte un rhumatisme infectieux qui va le clouer au lit et le 14 février 1895, alors que le petit Tolkien dicte à la bonne une lettre pour son père, Mabel reçoit un télégramme. Son mari a fait une grave hémorragie. Il y succombera le lendemain.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore Heureux.
De la petite enfance de Tolkien en Afrique du Sud, on retient deux anecdotes. La première est celle de son enlèvement par un domestique noir. Isaac enlève en effet le petit Tolkien dans le but de montrer un bébé blanc à son entourage. La disparition du nourrisson affole bien sûr tout le monde, mais malgré cela, le domestique n'est pas renvoyé. Les Tolkien sont des maîtres indulgents. L'autre événement se déroule alors que le petit Tolkien joue dans le jardin. Il pose son pied nu sur une tarentule qui le mord et lui injecte son venin. Tolkien hurle de terreur et se met à courir dans tous les sens, jusqu'à ce que sa nourrice l'attrape et suce le venin. Même si l'anecdote est souvent reprise pour justifier la présence d'araignées dans ses œuvres, Tolkien dira ne pas se souvenir de l'événement, hormis la course dans l'herbe. Il ajoute qu'il ne déteste pas particulièrement les araignées, étant plutôt enclin à les sauver qu'à les tuer. Après la mort de son mari, Mabel organise sa vie et celle de ses deux fils en Angleterre. À l'été 1896, ils s'installent tous les trois dans un cottage à deux briques à Sarhall, un village du sud de Birmingham. Les deux fils Tolkien ne vont pas à l'école. Leur mère se charge elle-même de leur instruction. Le futur écrivain apprend l'écriture, en particulier l'écriture calligraphiée que sa mère maîtrise parfaitement et qu'il utilisera tout au long de sa vie pour embellir ses manuscrits. Il apprend les langues, dont le latin, l'allemand ou encore le français qui ne lui plaît guère. Il apprend l'étymologie, ainsi que la botanique, les mathématiques et le dessin. Sa tante Jeanne lui enseigne la géométrie. Il lit les classiques Alice au Pays des Merveilles de Lewis Carroll, La Princesse et le Gobelin de George MacDonald, les Fairy Books d'Andrew Lang, mais également des histoires d'Indiens et de cow-boys ou des contes arthuriens. C'est un élève brillant qui très tôt invente des mondes imaginaires. En 1911, il devient élève boursier à l'Université d'Oxford. En 1916, il épouse Edith Bratt, dont il était amoureux depuis longtemps, mais que le prêtre de son enfance avait tenu à distance, exigeant qu'il se consacre d'abord à ses études. En 1917, il participe à la Première Guerre mondiale, il est engagé dans la bataille de la Somme, puis rapatrié à cause d'une fièvre des tranchées. C'est à cette époque qu'il crée la langue des elfes, le haut elfique ou Kenya, et qu'il écrit les prémices de la mythologie du Silmarillion. À partir de 1919, diplômé d'Oxford, il se consacre à son travail d'enseignant. Il est professeur d'anglo-saxon, considéré comme l'un des meilleurs spécialistes au monde de la philologie, l'étude historique des langues. En marge de sa carrière de professeur, Tolkien continue d'écrire un grand cycle de mythes et de légendes situé dans un monde imaginaire qu'il appelle « Terre du milieu ». Pendant 70 ans, il va s'attacher à construire ce monde, théâtre d'innombrables aventures, un monde fantastique avec ses divinités, ses peuples, les elfes, les hommes, les nains, les hobbits, ses créatures, les ents, les balrogs, les dragons, mais aussi ses langues. Tolkien considérait l'invention d'une langue comme une forme d'art à part entière. Les langues du peuple des nains ressemblent aux langues sémitiques. Le Kenya, la langue des hauts elfes, est proche du finnois. Quant à celle des elfes gris, elle s'inspire du gallois. En 1936, Tolkien écrit un conte pour ses quatre enfants, Bilbo le Hobbit. C'est un immense succès. Le livre raconte les aventures de Bilbo Baggins, un hobbit de la comté qui, comme tous ceux de son espèce, aime manger, boire et fumer la pipe. Il mène une existence paisible dans son trou de cul-de-sac jusqu'au jour où il croise le magicien Gandalf. Le lendemain, il a la surprise de voir débarquer chez lui prendre le thé non seulement Gandalf, le magicien, mais également une compagnie de 13 nains menée par Thorin, l'écu de chêne. La compagnie est en route vers la montagne solitaire où elle espère vaincre un dragon dénommé Smaug, qui a jadis dépossédé les nains de leur royaume et de leurs trésors. Cependant, pour mener à bien leur projet, il leur faut un expert cambrioleur, et Gandalf, justement, leur a recommandé le hobbit Bilbo. Celui-ci est plus que réticent à l'idée de partir à l'aventure, mais il finit par accompagner la troupe. Sur la route, il y aura des alliés, les elfes de Foncombe ou l'étrange Béorn, mais aussi des ennemis, les trolls, les profondeurs des monts brumeux infestés de gobelins, le mystérieux Gollum et la ténébreuse forêt de Mirkwood. L'écriture du Hobbit est partie d'une simple phrase que Tolkien a griffonnée un matin au dos de la copie d'un élève. Cette phrase, c'est « Dans un trou, vivait un hobbit. »
Au fond d'un trou vivait un hobbit. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, dont un certain confort.
Sa porte, peinte en verre, était parfaitement ronde, comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre.
Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, avec un sol carrelé et garni de tapis, pourvu de chaises bien astiquées et de nombreux patères pour accrocher chapeaux et manteaux. Ce hobbit aimait la visite.
Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite, mais pas tout à fait, dans le flanc de la colline. la colline, comme tout le monde l'appelait à des lieux à la ronde. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche, puis l'autre à droite.
Le Hobbit ne montait jamais d'escalier. Chambre, salle de bain, cave, gueule de manger, nombreux, pain de riz. Il y avait des pièces entièrement consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor.
Les plus belles pièces se trouvaient tout à gauche en entrant, car c'étaient les seules à avoir des fenêtres. Des fenêtres rondes, dans de belles niches, qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière.
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
Bilbo a un tel succès que l'éditeur réclame une suite. Tolkien y travaillera pendant 14 ans. Cette suite, c'est Le Seigneur des Anneaux, qui remportera un succès phénoménal dans le monde entier. Grande épopée fantastico-médiévale, Le Seigneur des Anneaux raconte avec un foisonnement de détails les événements ayant lieu dans le nord-ouest des terres du milieu, à la fin du troisième âge du monde. Les peuples libres sont en guerre contre Saruman, le magicien déchu, et contre Sauron, le seigneur des ténèbres. Pendant ce temps, Frodon, le hobbit, et ses compagnons doivent détruire un objet magique et maléfique, l'anneau de pouvoir. En 2001, l'intégralité du Seigneur des Anneaux est adaptée par le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson. Trois films sortent successivement : La communauté de l'anneau, Les deux tours et Le retour du roi.
Tout commença lorsque les grands anneaux furent forgés. Trois furent donnés aux elfes, immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. Sept au seigneur nain, grand mineur et sculpteur de la montagne. Et neuf anneaux furent donnés à la race des hommes, qui par-dessus tout désiraient le pouvoir. Car à travers ces anneaux furent transmises la force et la volonté de gouverner chaque race. Mais ils furent tous dupés, car un autre anneau fut forgé. Sur les terres du Mordor, dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour gouverner tous les autres. Dans cet anneau, il déversa sa cruauté, sa malveillance et sa volonté de dominer toute vie. Un anneau pour les gouverner tous.
Tolkien prend sa retraite à Bournemouth en 1959. Il meurt 2 ans après sa femme, en 1973, laissant à son fils Christopher la tâche gigantesque mais passionnante de publier sous la forme d'un récit cohérent la masse énorme de manuscrits qu'il a accumulés toute sa vie. Cette compilation, ce sera le Silmarillion. Chers auditeurs, merci. Si le cœur vous en dit, vous pouvez réécouter en podcast sur le site de Radio B tous les portraits d'écrivains de Encore Heureux. Un grand merci à Lola pour sa lecture de Bilbo le Hobbit. À très bientôt sur Radio B.